France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, sa longue vie de 86 ans lui permit de côtoyer aussi bien Berlioz que Ravel, de connaître Rossini, Liszt, Massenet, d'écouter Stravinsky, de vivre la folie wagnérienne qui s'empara de la France et le rejet qui en suivit. De ses goûts et dégoûts, Camille Saint-Saëns laisse de nombreux témoignages à travers quantité d'articles qu'il se plut à rédiger durant une cinquantaine d'années. Carole Beffa, mon invitée, en a sélectionné une généreuse vingtaine qu'il a réunie dans un ouvrage qui permet aussi bien de cerner la personnalité de leur auteur que de prendre la température esthétique d'une époque. Saint-Saëns au fil de la plume, de Carole Beffa, aux éditions Première Loge. Extrait des pièces de clavecin en concert de Jean-Philippe Rameau, c'était L'Agaçante, interprétée par les talents lyriques. Bonjour Carole Beffa.
Bonjour Philippe Venturini.
Vous êtes pianiste, compositeur, musicologue et maître de conférences à l'École Normale Supérieure. Vous avez donc réuni quelques-uns des articles de Camille Saint-Saëns, dont on fête cette année donc les 100 ans de la disparition, né à Paris en 1835 et mort à Alger en 1921. Vous rappelez dans votre introduction, Carole Beffa, que Saint-Saëns est une sorte de polygraphe compulsif. Il a écrit énormément et dans tous les domaines. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est bien sûr la musique, mais il s'est intéressé à tout un tas d'autres disciplines.
Oui, c'était un esprit vraiment encyclopédique qui a bénéficié d'une culture classique et d'éducation qui lui a fait voir à la fois des mathématiques, du latin, du grec. Il s'est intéressé très tôt à la littérature française, mais aussi à la littérature étrangère. Il était d'ailleurs polyglotte. Et ses centres d'intérêt étaient incroyablement variés. C'est quelqu'un qui correspondait par exemple avec Camille Flammarion, l'astronome. Il a d'ailleurs écrit sur quantité de sujets liés à l'astronomie, des textes très techniques, sur des questions d'éclipses par exemple. Il assistait régulièrement à des séances de l'Académie des sciences, et puis s'intéressait à des sujets extrêmement variés, les abeilles, la cécité des escargots, le droit de grève en Angleterre, la prononciation du latin d'église, Shakespeare, Racine, et puis évidemment la musique.
Alors la musique, il a écrit donc de très nombreux articles qui ont paru d'abord dans des journaux, dans des magazines. Comment ça s'est passé?
Oui, le plus souvent c'était dans des journaux. Alors il y avait de tout. Il y avait parfois des collaborations assez régulières. Le Bon Sens, la Renaissance littéraire et artistique, la France, l'Écho de Paris, le Voltaire, les Annales politiques. Des collaborations parfois plus irrégulières, la Revue de Paris, la Nouvelle Revue, d'autres encore, et puis des collaborations plus exceptionnelles. Certains de ces articles, il jugeait indispensable de les regrouper en recueil, ce qu'il a fait. Il y a comme ça 8 recueils d'articles qui ont été publiés pendant toute sa vie jusqu'à la toute fin. Et cela voulait dire que c'était des articles auxquels il tenait. Et en général, il n'y a pas de modifications ou des modifications minimes entre la publication de l'article dans une revue et ensuite la collection.
Et alors vous, Carole Beffa, quelle version avez-vous choisi? La version originale ou la version définitive qui est dans un de ces 8 recueils?
En général, la version définitive, avec l'idée que si lui-même avait décidé qu'il fallait modifier quelque chose, c'est qu'il avait de bonnes raisons de penser. J'ai parfois modernisé l'orthographe, mais je ne me suis pas permis de toucher, me semble-t-il, au style, parce qu'il a cette verve, cette qualité d'expression, ce choix de termes, cette variété de lexique qui m'a semblé absolument indispensable de conserver.
Alors, on va venir après à ses goûts et dégoûts, mais à la lecture de tous ces articles que vous avez donc lus pour préparer cet ouvrage, Carole Beffa, comment vous est apparue la personnalité de Camille Saint-Saëns?
Alors, ça n'est pas simplement l'homme engoncé dans ses certitudes et dans son conservatisme qui apparaît. Yves Gérard, qui est l'un des spécialistes de Saint-Saëns, écrivait avec une formule assez choc. C'est quelqu'un qui avait été 35 ans dans l'avant-garde et 35 ans dans l'arrière-garde, ce qui me semble tout à fait juste. C'est, on va le voir, quelqu'un qui commence par défendre Berlioz, qui est attaqué, par se méfier du mélodisme excessif du bel canto et de Rossini notamment, même s'il est très proche de Rossini, même s'il dit ce qu'il lui doit. Et en revanche, à la fin de sa vie, c'est quelqu'un qui, alors qu'il commence par soutenir Debussy et Ravel, s'en éloigne, simplement parce qu'il ne comprend pas leur musique. Il est totalement réfractaire à l'esthétique d'un Darius Milhaud, à ce que peut écrire Stravinsky dans Le Sacre du Printemps. Bref, à la fin de sa vie, il préfère plutôt des compositeurs comme Alfred Bruno, comme Granados. Même son ancien disciple et ami de toujours, Gabriel Fauré, eh bien, il lui dit à propos de la belle chanson que c'est une musique qu'il ne peut pas comprendre.
Alors, pour organiser cette vingtaine d'articles, Carole Beffa, vous avez fait 3 parties. Les anciens, évidemment, Rameau figure dans cette catégorie, aux côtés de Rossini, Meyerbeer, Liszt également. Les contemporains, Gounod, Offenbach, Fauré, que vous venez de citer. Et puis une troisième partie qui sont peut-être davantage des souvenirs, des impressions.
Tout à fait. Et c'est là où on trouve un Saint-Saëns touchant, émouvant parfois, et puis qui n'est pas dénué d'humour. Par exemple, qu'il raconte ses premières années, alors probablement qu'il y a une part d'embellissement dans ses souvenirs, si non è vero è ben trovato, c'est-à-dire si ce n'est pas tout à fait vrai, c'est en tout cas bien trouvé. Donc il a un sens de la narration qui est tout à fait savoureux, je pense. Et c'est ce qu'on trouve lorsqu'il parle donc de sa petite enfance, de son adolescence, du vieux conservatoire avec une certaine nostalgie, mais aussi de personnes qu'il a côtoyées d'assez près, par exemple Victor Hugo, dont il a mis en musique quantité de poèmes.
Thank you.
pleure le ciel te voit, un extrait de Fantasio de Jacques Offenbach par Sarah Connolly, l'orchestre du siècle des Lumières dirigé par Marc Elder. Carole Beffa, dans la deuxième partie consacrée au contemporain, figure Jacques Offenbach, deux articles consacrés à Offenbach, sur lequel c'est un sens à des propos assez mitigé. Il reconnaît à la fois son talent, mais en même temps il critique la musique légère et l'opérette qui, selon lui, a complètement perverti le goût du public.
Oui, il est particulièrement sévère dans le premier de ses articles, qui suit de peu la mort d'Offenbach. Effectivement, pour lui, Offenbach, c'est le type même du musicien qui rabaisse la musique, le musicien qui n'a pas une idée suffisamment élevée de la musique, pour en faire quelque chose de noble, ce qui, pour lui, doit être quand même avant tout l'objet de la musique. Alors, plusieurs choses sur cette question. D'abord, il est revenu, et on peut reconnaître que c'est quelqu'un qui a su revenir sur ses torts, il est revenu sur cette opinion en disant que, en réalité, il s'était peut-être trompé et que le succès d'Offenbach allait continuer après sa mort. Il faut aussi remarquer que cette idée d'une musique légère, c'est aussi ce qui le fait regarder avec quelques pincettes Mascagni, Leon Cavaglio, et ne le fait apprécier Puccini qu'après quelques années seulement. Il s'est résolu à l'admirer, comme on pourrait dire. Mais dans le cas d'Offenbach, effectivement, il y a toujours cette ambiguïté. En revanche, il lui reconnaît toujours un vrai talent, un vrai métier, un vrai artisanat. Et c'est d'ailleurs une chose qui a toujours compté pour lui. C'est quelqu'un qui mettait l'artisanat au-dessus de toute chose.
Il se considérait d'ailleurs lui-même comme un artisan.
Comme un artisan. Alors, c'est quelqu'un qui était incroyable. Hein. C'était évidemment le très grand compositeur que l'on sait, auteur de plusieurs tubes. La danse macabre est l'un d'entre eux. Mais c'est aussi quelqu'un qui était l'un des plus grands pianistes de son temps. Le meilleur d'entre nous à l'orgue, d'après Liszt lui-même, qui n'était pourtant pas vraiment un manchot. Un très grand chef d'orchestre. Enfin, c'est quelqu'un pour qui la musique n'avait aucun secret. Et c'est aussi quelqu'un, j'espère le montrer, dans ce livre, qui écrivait avec maestria sur la musique. Sans être technique, il arrivait à rendre perceptibles les choses de l'intérieur. D'ailleurs, sur cette question de l'artisanat, il faut remarquer que quelqu'un qui n'était pas du tout rancunier et qui n'a jamais ressenti, on va dire, le moindre sentiment de vengeance, qui était Ravel, remarquait à une époque où pourtant Saint-Saëns, après sa mort, était tombé dans un relatif oubli, alors que c'était le plus grand compositeur de la Troisième République.
Oui, c'était vraiment une figure nationale.
Voilà, il a eu droit d'ailleurs à des funérailles nationales. Eh bien, Ravel disait à ses disciples qu'il fallait lire, s'imprégner de la musique de Saint-Saëns, parce que son artisanat était tellement parfait que quoi que soit le style que l'on voulait adopter, eh bien, il y avait quelque chose d'intéressant à se pénétrer de ses partitions.
Et cette idée de musique légère contre une musique, on va dire, peut-être pure, une musique sérieuse, est-ce qu'il l'a toujours revendiquée ?
Alors, lui-même a écrit de la musique légère, à vrai dire.
Oui, la danse macabre, le carnaval des animaux, par exemple.
Tout à fait. Il a même, on va dire, publié des textes littéraires légers. C'est vraiment une image qui frappe quand on croit connaître Saint-Saëns. Il a écrit quantité de canulars. Il s'est amusé à parodier, par exemple, Péléas et Mélisande. Il a écrit des fables, des blagues, sous forme de vers, parfois, sous forme de prose, et pas simplement en notes. Donc c'est quelqu'un qui n'était pas rempli de l'esprit de sérieux, tout au contraire. Il avait un certain sens de la légèreté, mais il considérait malgré tout qu'en musique, il y avait une chose élevée qui s'appelle la musique, qui s'appelle l'art, avec un grand A, et qu'il fallait la défendre.
Hier, für dieses Werk, tapfer gefliegt, sollst du mir sein, schaffst du nicht fertig, wie ich mich stell, so stund das feindliche Meid.
Mei, lass mich nur los, fertig ist's, wie du befahlst, mit Fleisch und Schweiß ist es geblüht, nimm nur die Nägel vom Ohr.
Was zögerst du dann und zeigst es nicht?
Ich, armer Zarte, lass noch was fehlen.
Was denn, du nicht fertig?
Hier. Und da,
was hier und da, hier, das ist schon meint.
La descente au Nibelheim, extrait de L'Ordurin de Richard Wagner, l'orchestre du Festival de Bayreuth, sous la direction de Karl Böhm. Il est évident qu'une des grandes forces de Richard Wagner, un de ses moyens d'action les plus puissants sur le public, a été justement le développement de la musique descriptive poussée jusqu'au plus extrême limite. Écrit Camille Saint-Saëns, Carole Beffa, Wagner, qui occupe une place importante dans ses écrits, et c'est normal, étant donné l'époque à laquelle Camille Saint-Saëns a vécu, donc en cette fin du 19e siècle, c'était vraiment une figure, on était pour ou contre, au départ la France a été atteinte de Wagnerite aiguë. La musique descriptive, la musique à programme, il y a de plusieurs articles consacrés à Liszt, aux poèmes symphoniques, et puis les poèmes symphoniques, donc de Liszt, mais on pense évidemment à ceux que Saint-Saëns a composés.
Oui, alors, effectivement, Saint-Saëns est l'un des premiers à avoir défendu Liszt et ses poèmes symphoniques. Il a aussi été l'un des premiers à en composer. Bon, on connaît évidemment la danse macabre, mais il y a aussi le Rouet d'Omphale, Phaéton, la Jeunesse d'Hercule, par exemple. Mmh. Ce qui se passe, c'est que, s'agissant de Liszt, alors c'est un compositeur qui est aussi un ami pour lui, ils ont entretenu d'excellentes relations, leurs musiques ont certains traits stylistiques en commun, tous les deux sont d'excellents interprètes en plus d'être de fabuleux chefs et compositeurs, tous les deux ont écrit sur la musique. S'agissant de Wagner, la question est plus complexe. Au début, comme beaucoup d'autres, Saint-Saëns est ébloui par la musique de Wagner. Il lui emprunte d'ailleurs quelques traits stylistiques. Et ce qui va...
Par exemple,
pouvoir avoir certaines modulations qui vont emprunter des traits ou à ces accords plaques tournantes que l'on trouve souvent chez Liszt ou chez Wagner. Les accords de quinte augmentée, les accords de septième diminuée. Vous pouvez avoir des modulations assez éloignées. Vous pouvez avoir... le fait de parfois repousser au maximum la clausule d'une phrase, c'est-à-dire sa cadence, sont des traits qui sont aussi des traits du wagnérisme et qu'on trouve chez Saint-Saëns. Mais ce qui se passe, c'est que Saint-Saëns est outré par un pamphlet qu'écrit Wagner en 1870, une capitulation où il se moque des Français. Et d'une certaine façon, c'est Sedan, donc il y a 150 ans, qui va contribuer à creuser un fossé entre les deux hommes. Pas simplement entre les deux hommes. Il faut savoir que Wagner était d'ailleurs un des correspondants habituels de Saint-Saëns, qui, outre ses écrits sur la musique, a écrit à peu près 20 000 lettres. Wagner est un de ses correspondants, au même titre que Pasteur, par exemple, ou que Proust, qui ne sont pas n'importe quel nom. Ce qui se passe donc, c'est que, à la faveur d'une tournée que Saint-Saëns fait en Allemagne, les chancelleries diplomatiques sont alertées, il y a quelques manifestations contre sa venue, bref, il est persona non grata. Et le fossé ne va aller qu'en se creusant, s'élargissant entre les deux hommes. Jamais Saint-Saëns ne dira qu'il n'aime plus la musique de Wagner. En revanche, il se sent obligé d'attaquer ce qu'il appelle le système de Wagner, la religion, le wagnerisme, la secte, dit-il aussi parfois, parlant des wagneriens. Et il va trouver tous les prétextes pour s'éloigner des plus wagneriens des Français. C'est Vincent d'Indy, par exemple, contre qui il écrit un opuscule. Et le divorce est consommé.
Mais là, Carole Beffa, on dépasse évidemment de très loin le simple combat esthétique. C'est la politique qui s'en mêle.
Tout à fait. Le débat s'est envenimé à cause de questions politiques, et les choses, comme vous pouvez vous en douter, ne vont pas s'améliorer jusqu'à l'approche de la Première Guerre mondiale. Les textes les plus virulents sur cette question ont été réunis dans un recueil qui s'appelle « Germanophilie », qui n'est pas une antiphrase, mais qui est une façon pour Saint-Saëns de brocarder l'excessive germanophilie, en tout cas à ses yeux, d'un certain nombre de ses contemporains.
Et puis on revient aussi à le premier extrait qu'on a entendu, Savoir Rameau, la défense de la musique française avec la création en 1871 de la Société Nationale de Musique, c'est ça?
Oui, il y a ça.
Ars Gallica, la devise.
Ars Gallica en est la devise. Il va y avoir d'ailleurs des tensions, justement, à cause du wagnérisme au sein de cette société. Il va y avoir ceux qui se trouvent du côté de Saint-Saëns et ceux qui sont plutôt du côté de Vincent d'Indy, pour paraphraser Proust. Et puis, effectivement, lorsque Durand se lance dans l'entreprise monumentale qui consiste à éditer ou rééditer les œuvres de Rameau, il fait appel à certains grands noms de son temps. Il y a Debussy, que l'on connaît évidemment très bien, Alexandre Guilmant, Reynaldo Hahn et Saint-Saëns lui-même.
Cécile Éloire, accompagnée au piano par Cyprien Katsari, c'était « Chant de ceux qui vont en mer » de Camille Saint-Saëns sur un texte de Victor Hugo. Carole Beffa, la troisième partie donc de votre livre, on l'a dit, les souvenirs d'enfance, les souvenirs de conservatoire, une évocation d'Anton Rubinstein, de Pauline Viardot, et le tout dernier chapitre que vous avez consacré à votre livre, donc à ces quelques 300 pages de texte de Camille Saint-Saëns, c'est Victor Hugo. Donc là, ce n'est pas un compositeur, c'est la seule exception. Pourquoi?
C'est pas un compositeur, c'est quelqu'un d'ailleurs qui avait un rapport un peu particulier à la musique. On peut pas dire qu'il était sourd à la musique, mais enfin...
Pas très mélomane.
Pas quelqu'un qui était extrêmement mélomane. En plus, ça va pas de soi que Saint-Saëns se soit épris à ce point de Victor Hugo. Il le dit lui-même, il est dans sa jeunesse beaucoup plus influencé par les classiques. C'est quelqu'un qui très tôt lit Racine, lit Corneille, lit Boileau. Et c'est quelqu'un qui, d'une certaine façon, va toujours rester comme une espèce de classique égaré chez les romantiques, comme le serait à sa façon Brahms, avec qui d'ailleurs il entretient des relations un peu paradoxales. Donc, son hugolatrie, comme il dit lui-même, elle lui vient un peu plus tard, c'est-à-dire qu'il s'imprègne de ses vers, il en met en musique, déjà assez jeune, certaines de ses mélodies sont restées à la postérité, Et son ugolâtrie va croissant, comme il dit lui-même, jusqu'à ce que il se rende compte qu'il aimerait bien rencontrer le grand homme. Il a l'occasion de parler beaucoup avec Berlioz, qui lui-même a beaucoup connu Hugo. Et il se prend de passion, pas simplement pour sa poésie, mais également pour son théâtre. Alors, il y a quantité d'anecdotes qui nous sont contées par Saint-Saëns au moment de la mort de Hugo, qui sont liées à ses funérailles, qui sont liées au goût que pouvait avoir Hugo, que l'on s'intéresse à son Esmeralda, à plein de choses qui rendent cet article, le dernier qui figure dans cette anthologie, à mon avis assez savoureux.
Très bien, merci beaucoup Carole Beffa. Je rappelle le titre de votre livre, Saint-Saëns au fil de la plume, qui vient de paraître aux éditions Première Loge. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, à la technique Olivier Dupré, attaché de production Annick Aumier. La semaine prochaine, je serai en compagnie de Barbara Nestola et nous évoquerons l'ère italien sur la scène des théâtres parisiens au temps de Louis XIV. D'ici là, excellente journée et même excellente semaine à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.